Bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et je reçois chaque mardi un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. Lorsqu'on entend parler de grossesse menée en même temps que les études, on a tendance à penser qu'il s'agit d'une grossesse surprise, non prévue, impromptue. On a du mal à imaginer qu'on puisse désirer un enfant quand, aux yeux de la société, la vraie vie n'a pas encore commencé. Adeline, mon invitée du jour, n'avait que faire de ce que les autres pouvaient penser. Elle rêvait de connaître la maternité tout en étant étudiante, et c'est ce qu'elle a fait. Même si elle en avait très envie depuis le début de son parcours en psychologie, Adeline et Tristan, son mari, ont quand même attendu, et c'est juste avant d'entrer en Master 2 qu'elle apprend qu'elle est enceinte de leur premier enfant. Alors comment prépare-t-on un mémoire de fin d'études tout en préparant l'arrivée d'un petit être qui va chambouler sa vie à tout jamais? Comment jongler entre la fatigue de la grossesse et l'intensité du travail universitaire? Adeline nous raconte tout dans ce nouvel épisode. Tu pensais être seule à galérer? Mets tes écouteurs et prenons un café. Salut Adeline, bienvenue sur Prenons un café.
Bonjour Élise.
Je suis ravie de te recevoir. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et pourquoi tu prends un café avec moi aujourd'hui?
Donc, je suis Adeline, j'ai 25 ans. Je suis avec mon mari Tristan depuis 7 ans maintenant. On est mariés depuis un an. On est les heureux parents d'une petite Chloé qui va avoir 2 ans dans 15 jours déjà. Et je suis actuellement enceinte d'une deuxième petite fille, donc prévue pour fin septembre. Dans mon autre vie, je suis psychologue. Je travaille avec les enfants de 3 à 18 ans. Et mon projet, c'est de me spécialiser en périnatalité pour accompagner la grossesse et voilà tout ce qui concerne l'aspect périnatal pour les familles. Et puis, pourquoi je prends un café avec toi? Parce que j'avais très envie d'aborder un thème que je trouve parfois peu représenté. En général, c'est la maternité et les études. Donc, que ce soit être enceinte pendant ses études ou accueillir son premier enfant ou peut-être un deuxième, troisième, quand on a repris des études ou qu'on est encore étudiante. Donc voilà, j'avais vraiment envie de partager mon histoire, mon témoignage avec toi aujourd'hui dans un aussi chouette podcast.
Est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu as toujours désiré être maman?
Oui et non. Alors, quand j'étais petite, j'aimais beaucoup materner mes poupées, etc. Mais j'ai pas eu le souvenir d'avoir toujours voulu être maman. Comme certaines personnes, voilà, qui ont vraiment ce désir très très fort depuis petite. Moi, j'aimais bien jouer avec mes poupées, mais voilà, j'ai pas eu l'impression que ça allait beaucoup plus loin que ça. Quand ma sœur, qui est âgée de 15 ans de plus que moi, a eu ses premiers enfants, j'étais très contente de m'en occuper, mais voilà, j'avais pas l'impression que ça avait révélé quelque chose en moi de cet ordre-là. Et quand j'étais adolescente, peut-être encore moins, dans le sens où moi mes parents se sont séparés quand j'étais adolescente, et je me disais oh là là, c'est quand même je trouvais ça difficile en tant qu'enfant de vivre la séparation de ses parents. Je me disais, faut quand même vraiment être avec quelqu'un avec qui on s'entend bien pour faire des enfants. Enfin voilà, j'étais un peu dans ce truc de moi, faudra vraiment que si un jour j'ai des enfants, faudra que je les fasse avec vraiment un homme avec qui je me sens très bien. Et donc je pensais pas que ça allait forcément arriver très tôt. Voilà, et puis quand je me suis mise avec Tristan, j'en parlerai un peu plus tard, je suis entre guillemets malheureusement et heureusement tombée enceinte assez rapidement, et comme je venais tout juste de commencer ma deuxième année d'université, on a décidé de pas le garder parce qu'on se connaissait depuis très très peu de temps. La question s'est pas posée, donc c'est vrai que cet IVG là, quand je l'ai fait, je savais exactement pourquoi je le faisais, ce que ça impliquait ou n'impliquait pas, et bizarrement, j'ai l'impression que là, ça a vraiment, ça m'a fait un déclic, dans le sens où je me suis dit, mais en fait, je peux faire des enfants, Non pas que je m'étais pas posé la question de est-ce que je pouvais en faire ou pas, mais là c'est venu voilà vraiment réveiller quelque chose de en fait tomber enceinte c'est pas rien. Et donc j'ai commencé à voilà m'intéresser à la périnatalité, au développement de l'enfant, et là ça s'est transformé en enfin c'était très théorique. Voilà, je me renseignais énormément et j'ai commencé à avoir vraiment très très envie d'avoir un enfant très jeune, non pas pour avoir regretté cette IVG qu'on n'a pas du tout regretté dans le sens où à cette époque-là, voilà, ni financièrement parlant, puis je connaissais Tristan depuis 2 mois, donc c'était pas du tout envisageable, mais voilà, ça a vraiment réveillé ce désir d'avoir une famille, d'être avec quelqu'un avec qui je me sens assez bien, assez solide pour pouvoir avoir un enfant, parce que bon, c'est pas rien d'avoir un bébé, donc faut quand même voilà, se sentir bien dans son couple, dans sa tête, en tout cas essayer de voilà, traverser tout ça ensemble. Donc à ce moment-là de notre vie, on se sentait vraiment pas prêt, on était encore voilà, trop jeune pour ça, et donc je dirais que le désir d'enfant, il est vraiment venu à ce moment-là, dans le sens où j'avais vraiment très envie de préparer ce désir d'enfant. Voilà, être prête à accueillir ce bébé quand ce serait le bon moment.
Est-ce que tu en as parlé à ton chéri à ce moment-là de ce désir qui était né suite à cette IVG ou pas du tout ?
Oui, assez rapidement. Tristan et moi, on s'est rencontrés donc quand j'étais en première année d'université, donc en licence 1 de psychologie, et très rapidement, j'ai commencé à lui dire, écoute, j'ai très envie d'avoir un enfant, et en fait, je me questionnais beaucoup sur comment j'allais faire avec mes études, parce que je ne sais pas pourquoi j'ai toujours su que j'aurais un enfant pendant mes études. Pour moi, c'était comme ça que je m'imaginais. Quand je voyais, tu sais, les petits reportages sur les filles qui avaient leurs enfants en étant à l'université ou dans d'autres études, je me disais, oh là là, c'est incroyable. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a toujours... Je me suis dit, pouvoir faire les deux en même temps, c'est fou, etc. Puis, je n'avais pas forcément envie d'attendre. En même temps, je me lançais dans des études quand même qui allaient me prendre 5 ou 6 ans. Donc, je me suis dit, bon, ça m'amène quand même voilà, à 24-25 ans, et j'avais vraiment envie d'avoir un enfant jeune, donc j'ai rapidement dit à Tristan, écoute, en L2, en L3 peut-être, puis il me disait, mais non, c'est pas... voilà, lui, il avait envie de profiter de notre jeunesse, de sortir, lui, il n'était pas étudiant, il travaillait déjà, mais quand on s'est rencontrés, moi, j'avais 18 ans, et lui, il en avait 23, donc il avait vraiment envie voilà, de profiter, et puis il me disait, tu sais, ça viendra quand ça viendra, puis c'est important qu'on en ait tous les deux envie. Donc moi, ce désir, je le sentais physiquement, tu vois, et je me posais plein de questions, et je lui disais souvent, allez, viens, on essaye, puis il me disait, non, donc il était assez, assez solide, en me disant, mais non, parce que moi, j'en ai pas forcément envie, et je suis sûre que le jour où j'en aurai envie, c'est que ce sera le bon moment pour tous les deux. Donc voilà, du coup, j'ai passé mes premières années d'université à attendre le beau moment, et finalement, heureusement, parce que c'est vrai qu'en deuxième ou en troisième année, ça aurait été plus compliqué que le moment où je suis vraiment tombée enceinte, finalement.
Ouais. Du coup, alors, vous décidez de patienter. Un jour, tu tombes enceinte. Cette grossesse, elle a été réfléchie en amont ou elle est arrivée un peu par hasard ?
Non, elle n'est pas du tout arrivée par hasard, ça a été très, très réfléchi. Alors moi, si je retourne un petit peu en arrière, quand j'étais en L3, je voulais devenir professeur des écoles. Et donc, je me suis inscrite dans le Master 1 professeur des écoles, après ma licence de psycho. Et j'avais dit à Tristan un soir, écoute, si j'ai mon concours, parce qu'il faut passer son Master 1 plus son concours de professeur des écoles, je lui avais dit, si j'ai mon concours, on tente, et comme ça je serai enceinte en master 2, j'aurai un salaire, je commencerai à travailler, ce sera génial, enfin voilà, moi dans ma tête c'était très très fixé, je suis quelqu'un qui aime bien contrôler les choses, donc je m'étais dit tout est nickel, tout est booké, sauf que je rentre en master 1 de professeur des écoles, donc le CRPE, et je me rends compte que ça ne me plaît pas du tout. La gestion de classe, voilà, je me retrouve en stage avec des classes de 30 enfants, je me dis mais oh, mais comment c'est possible de gérer autant d'enfants? Voilà, je trouvais que c'était compliqué, des enfants qui n'ont pas tous le même niveau, c'était pas simple. Je trouvais que le système scolaire était, voilà, pas. En tout cas, moi, j'avais pas forcément envie de travailler qu'avec des groupes d'enfants. Et donc, c'est là que je me suis dit, bon, ben, finalement, je pense que psychologue, pour pouvoir vraiment travailler avec un seul enfant, psychothérapie ou avec des groupes, mais plutôt de temps en temps, ce serait beaucoup plus adapté à ce que j'ai envie de faire. Donc, mon plan de grossesse tombe complètement à l'eau, puisque du coup, je repars dans un autre master. Donc, je termine l'année et en M1, donc en master 1 de psychologie, la question s'est vraiment pas posée, dans le sens où, en fait, j'étais tellement, je croulais tellement sous le travail que je n'y pensais pas tellement. Et en fait, en psychologie, faut savoir que entre le master 1 et le master 2, c'est plus comme ça actuellement, il y avait un espèce de concours. Alors, c'était pas un concours formel, mais informellement, on devait remplir un dossier, passer un oral pour prouver qu'on voulait vraiment devenir psychologue, que c'était la vocation de notre vie, et pouvoir accéder au Master 2. Donc voilà, moi, je me souviens plus quand c'était, en décembre donc, de mon Master 1, j'avais dit à Tristan, écoute, je pense que je suis prête. Mais comme il y a ce fameux concours, j'ai peur de pas l'avoir et qu'on se retrouve, voilà, peut-être avec un enfant sans projet professionnel, ce qui moi me convenait pas du tout, dans le sens où je me voyais pas reprendre des études de 3-4 ans derrière un master 1, et avec un master 1 on peut pas faire grand chose malheureusement. Donc voilà, on en avait discuté comme ça, et il me disait, écoute, attends de passer le concours, t'inquiète pas, ça va bien se passer, je suis sûre que tu l'auras. Mais bon, entre être sûre que la personne l'aura et le fait de l'avoir, il y a quand même un petit pot. Et en février, je ne sais pas pourquoi, un soir, c'est toujours le soir, hein, autour d'un petit verre de vin, on discute, et là il me dit, j'ai envie de faire un enfant avec toi. Donc là, incroyable, alors qu'en décembre, janvier, je lui dis que j'ai envie de ce bébé, mais qu'avec le concours, je suis un peu stressée, et que là, à ce moment-là, il ne m'avait pas du tout dit que lui avait envie. Et en février, c'est sorti vraiment d'un coup comme ça. Il m'a dit, je suis sûre que ça va aller pour ton concours, allez, viens, on se lance. Alors qu'auparavant, il m'avait dit, hein, qu'il avait envie d'avoir des enfants, mais ouais, que c'était pas du tout dans des projets proches, mais il était ok avec mon idée de master 2, instit, tout ça, ça il était d'accord avec ça, mais pour le coup, comme c'était un peu tombé à l'eau, on n'en avait pas forcément reparlé énormément.
Est-ce que tu sais ce qui a été le déclic chez lui ce soir-là de février?
Écoute, j'en ai aucune idée, on en a déjà reparlé, et je lui avais dit, tu te souviens? Parce que moi, je me souviens de comment on était habillés, enfin, je me souviens vraiment de ce moment, c'était très fort.
C'est un peu comme une demande en mariage, quoi.
Ouais, c'est ça, et pourtant, voilà, c'était pas un moment très choisi, mais en fait, il m'a dit, je sais pas, à ce moment-là, j'ai senti que c'était, voilà, que c'était le bon moment, et il m'en parlait souvent de ce bon moment, et c'est, je sais pas s'il y a quelque chose qui a déclenché ça, peut-être le fait que je sois très bien dans mes études, je pense que ça a aidé, dans le sens où il voyait que je m'investissais énormément, que j'étais parmi les premières de promo, donc je pense qu'il voyait que ça allait rouler en fait, et qu'on n'allait pas se retrouver peut-être en fin de master 1 en mode, j'attends un bébé, mais je n'ai pas eu mon concours. Et donc là, c'est un scénario qui est quand même, je pense qu'il y a des personnes à qui c'est arrivé, hein, bien sûr, mais c'est vrai que je pense que ça aurait été compliqué en termes financiers, professionnels, puis voilà, accueillir aussi un enfant dans le stress de pas forcément savoir ce qu'on va faire après. Donc là, je pense qu'il a peut-être évalué un petit peu tout ce qui se passait autour de nous en se disant, effectivement, je pense qu'on est prêt. Et tu vois, ça faisait déjà, à l'époque, peut-être 4 ans qu'on était ensemble.
Et alors, toi, tu étais d'accord? Tu as dit oui?
Ah ben, bien sûr. Bien
sûr. Et donc, vous êtes lancée?
Alors, je ne sais pas si on s'est lancé à ce moment-là, bizarrement. Parce que tu vois, je suis en train d'y réfléchir pendant que tu me parles et je crois qu'on a attendu un petit peu. Peut-être que c'était de mon fait, mais je ne me souviens pas qu'en février, on se soit dit « Allez, on y va, on se lance. » Et là, c'est le... on y va. Je crois que j'avais je devais avoir des examens, des choses comme ça. Je lui avais dit, écoute, on attend le mois de mai. Je ne sais pas pourquoi le mois de mai, mais on attend que ça se tasse un petit peu au niveau de la fac. Et puis là, on se lance. Puis comme je serai un peu moins stressée et tout, ça va aller comme sur des roulettes. Voilà. Donc on s'est lancé un tout petit peu plus tard.
Est-ce que ça a fonctionné tout de suite ou est-ce que vous avez dû attendre un peu?
On a attendu un tout petit peu. Alors, on a essayé donc à partir du mois de mai et fin juin. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé de mon côté. J'ai eu peur, en fait. J'ai eu super peur. Alors que c'était, je pense que j'attendais ça depuis ma fin de première année de fac. Et en fait, je sais pas, je me suis inquiétée. Je me suis dit, oh, mais si ça se trouve, le master 2 ça va être tellement dur que tu vas pas gérer, si ta grossesse elle se passe pas bien et que tu dois arrêter les cours, comment tu vas faire, enfin j'étais vraiment dans ces questions là études, grossesse, voilà, j'avais peur des scénarios, comme je suis passionnée de périnatalité, je lis et j'écoute énormément de choses, pas toujours voilà, très très simple en rapport avec la grossesse, donc je m'étais dit, ah, imagine tu auras peut-être pas la grossesse de rêve, donc là je flippe littéralement et je dis à Tristan, ok, en fait on va attendre un peu. Et lui, il me dit, mais comment ça? Comment ça? On attend un petit peu, mais je ne suis pas d'accord. Maintenant, c'est moi qui dis oui, c'est toi qui dis non. Et en fait, on part en vacances début juillet. Et en fait, j'oublie complètement que ma petite période de flip, voilà, moi, je prenais pas la pilule. À ce moment-là, on avait toujours mis des préservatifs. Et puis, on n'a jamais remis de préservatif au moment où j'ai eu peur. C'est passé aussi vite que c'est venu. Et finalement, au mois de juillet, donc on réessaye. Je ne tombe pas enceinte. J'appelle ma sage-femme. Je lui dis, écoutez, je pensais que ça allait marcher tout de suite, mais en fait... Ma sage-femme me dit, bah, écoutez, on peut prendre rendez-vous pour en discuter, mais bon, ça fait que 2 mois quand même que vous essayez, je pense qu'on peut attendre encore un petit peu. Et donc je lui dis, d'accord, on prend rendez-vous quand même, parce que ça me stresse un petit peu cette histoire, et puis je lui dis, comme j'ai déjà fait un IVG, peut-être que ça va prendre du temps, enfin voilà, j'étais un petit peu inquiète par rapport aux conséquences que ça aurait peut-être pu avoir sur ma fertilité. Et donc on prend rendez-vous à notre retour de vacances. On continue notre petit road trip, on était à Bergerac dans la famille de Tristan, on fait notre petite vie, on rentre, je n'avais pas mes règles, j'avais 3 semaines de retard et je ne m'en suis pas du tout préoccupée parce que nous étions en vacances.
C'est assez impressionnant parce qu'en fait tu avais ce désir-là, tu t'inquiètes, tu appelles la sage-femme et quand tu as un retard tu t'en rends pas compte.
C'est ça, c'est marrant. Mais oui, c'est vraiment très bizarre. On est en vacances, moi je suis trop bien, je suis super contente, je me dis allez, on se prend pas la tête, parce que d'habitude je suis quand même, voilà, c'est stressé, on se dit là on se prend pas la tête, et je rentre et je me dis, je vais quand même faire un test avant d'aller chez la sage-femme, parce que effectivement j'ai pas mes règles. Et là, je fais mon test pendant que Tristan prend sa douche, et là, positif, c'est réel quoi, c'est là, on y est. Et donc, j'apprends que je suis enceinte. J'ai l'annonce à Tristan sous la douche, parce que j'avais envie de faire une annonce trop bien, tu sais, mettre le thé dans une petite boîte, un truc super romantique. Je n'ai pas tenu 3 minutes. Je suis allée le voir, je me souviens, il était à poil en train de se laver. Et là, je lui ai dit, je crois qu'on va avoir un bébé. Il m'a regardé et on a été bouche bée toute la journée. Toute la journée, on est allé voir ma mère qui habite, je sais pas, peut-être qui habite à 1 heure de route à peu près. On ne s'est quasiment pas parlé pendant le trajet, tellement on était. Alors, je sais pas si c'était, oui, peut-être un peu d'étonnement. Pourtant, tu t'attends quand tu as envie d'avoir un enfant, tu t'attends à ce qu'à un moment donné, peut-être, il y ait cette fameuse nouvelle. C'était pas une grande surprise, mais. Tu vois, je pense que tous les deux, on était en train de se dire, ouais, mais ça y est, quoi, on va devenir une famille, peut-être, si tout va bien. Et c'était vraiment trop drôle. On en parle souvent de cette journée où on était complètement bouche bée, les deux, à dire, ça y est, c'est là. Et en même temps, une fois que tu fais ton test et qu'il est positif, tu te dis, ouais, ça y est, je suis enceinte, c'est génial. Mais en fait, ta vie, pour le coup... la journée même, ta vie ne change pas. Tu te mets pas à avoir un énorme ventre, le bébé ne bouge pas. Enfin, tu vois. Et donc c'était très bizarre parce que t'as ce petit secret. Tu sais que tu es enceinte et bon, pour autant, voilà, physiquement, j'avais pas de mots particuliers. Et donc ce qui est vraiment incroyable, c'est que le jour où j'ai appris donc le matin que j'étais enceinte, j'ai appris que j'avais eu ce fameux concours pour entrer en master 2. J'ai reçu un mail le soir. Vous êtes sélectionné, nous avons l'honneur de vous annoncer que vous êtes sélectionné dans la promotion Master 2. Et là, je me dis, c'est dingue quand même que ce soit arrivé le même jour.
C'est quoi ta réaction à ce moment-là? Parce que tu disais tout à l'heure que tu as vu ce moment de flip, de pas savoir finalement concilier les deux. Quand tu apprends que tu es enceinte et quand tu apprends que tu es reçue, comment tu réagis? Est-ce que ce flip-là revient ou pas du tout?
Pas du tout. Moi, je me dis, je suis en master 2, je vais avoir mon bébé, ça va être incroyable. Vraiment, je m'en fais. Alors, je m'en suis pas fait tout de suite. Un peu plus tard, je m'en suis un peu fait pour la réaction des profs. Je me disais, bon, comment l'équipe pédagogique va le prendre? J'expliquerai un petit peu plus tard, mais il n'y a pas de congé maternité pour les étudiants. Enfin, voilà, mais là, pour le coup, ces questions, je ne me les suis pas du tout posées ce jour-là. Je me disais, en fait, moi, j'étais. Comment dire? J'avais vraiment tellement idéalisé le fait d'être étudiante et enceinte, que je me disais, c'est super. En plus, bizarrement, mon terme était, ça j'y suis un petit peu plus tard, mon terme était prévu pour le 7 mai. Et donc, ça faisait presque toute l'année universitaire, tu vois, parce que ma grossesse a démarré le 7 août. Et donc, voilà, je me suis rendu compte très vite qu'en fait, mon ventre allait grossir au fur et à mesure des jours de cours. Et donc, je me suis dit, mais en fait, c'est fou. Hein, j'ai deux bébés cette année. J'ai mon bébé mémoire, master 2, professionnalisation, et mon bébé, mon vrai bébé, qui sera le début de notre vie de parents, de famille, quoi.
Concrètement, le master de psychologie, ça consiste en quoi? Tu as des cours? Est-ce que tu as des stages? Est-ce que tu as... Enfin, comment est censé se dérouler cette année-là?
Alors, on a deux types de master 2 en psychologie. Il y a le master 2 professionnel et le master 2 recherche. Le master 2 professionnel, tu fais... alors moi, en tout cas, dans mon université, c'était comme ça. Tu allies un ou deux stages professionnalisants plus un mémoire professionnel et des cours. Voilà. Et donc, à la fin de l'année, tu démarres en septembre, tu termines peut-être en septembre l'année d'après, tu es psychologue. Voilà. Et là, tu peux commencer à travailler. Moi, j'avais pris un chemin différent parce que mon directeur de mémoire de Master 1 voulait que je fasse une thèse. Elle m'avait proposé de faire une thèse. J'avais travaillé sur l'impact des naissances traumatiques sur les sages-femmes. Je m'étais dit, allez, je me lance en thèse. Donc voilà, j'étais partie dans un master recherche, donc qui consiste à avoir que des cours et un mémoire de recherche à faire en année de master 2. Et ensuite, soit tu intègres la thèse, donc tu commences ton doctorat, soit tu fais un stage professionnalisant de 500 heures, donc une fois que tu as validé ton master 2, pour devenir psychologue. Donc ça, c'est le parcours que je souhaitais faire, et après, voir si j'étais partante pour la thèse ou pas. Voilà, c'est ces deux types de parcours. Donc moi, j'étais en recherche. Donc cette année-là, très concrètement, j'avais 3 jours de cours par semaine. J'étais en cours le lundi, mardi, mercredi. Et le jeudi, vendredi, j'étais détachée. Donc j'étais à la maison en train d'écrire mon mémoire. Autant dire royal quand on est enceinte. Parce que pas de stage.
Oui, parce que les stages dans les milieux de la psychologie, ça peut être des choses assez impactantes et violentes finalement.
Oui, c'est ça. Oui. Après, ça dépend des parcours qu'on choisit. Il y a des psychologues qui s'orientent, enfin des masterants en psychologie qui s'orientent plutôt en psychologie du travail pour accompagner les salariés. Il y en a d'autres qui s'orientent plutôt pour travailler avec les enfants ou alors en psychiatrie avec des adultes. Voilà, c'est vrai qu'on a énormément de champs d'action, mais effectivement, le principe d'être psychologue, c'est pas de travailler avec des personnes qui vont très bien. Évidemment, on est là pour les accompagner dans leur souffrance. Donc c'est vrai que voilà, le stage, surtout en Master 2, c'est des stages professionnalisants. Donc, on te laisse normalement beaucoup d'autonomie. Donc, c'est vrai qu'avec une grossesse, c'est pas... Bon, moi, je pense pas que ça m'aurait trop dérangé, mais c'était plus le côté fatigue physique qui m'aurait inquiété si j'avais été en professionnel, en Master 2 professionnel.
Est-ce que tu as annoncé la grossesse au corps enseignant dès la rentrée, ou est-ce que tu as souhaité attendre un peu?
J'ai attendu un petit peu. Je voulais attendre que ça fasse 3 mois et qu'on ait la première échographie. Je ne dis pas qu'on est toujours sûr que tout va bien après la première écho, mais en tout cas, d'être sûr que bébé à ce moment-là allait bien, et puis pour aussi discuter des aménagements qui allaient être faits, étant donné que quand ma sage-femme m'a annoncé le terme au 7 mai, je me suis dit, mais en fait, ça va tomber pendant mes partiels, ça. C'était exactement la période des partiels du mois de mai. Et donc, pour moi, c'était vraiment important de prévenir l'équipe pédagogique assez tôt, enfin, 3 mois, ça me semblait assez tôt, pour pouvoir leur demander comment j'allais me débrouiller, s'il y avait des partiels sur table, si c'était uniquement des dossiers. Voilà, je voulais être sûre que tout allait pouvoir rouler cette année-là pour moi. Donc, je l'ai annoncé au bout de 3 mois, avec, je dirais, quasiment tous les profs, sauf un, ont été très contents, me disant voilà, que j'étais une bonne élève, enfin une bonne étudiante, que ça n'allait pas poser de soucis, qu'ils étaient très contents, que c'était un super projet. Voilà, donc j'ai eu aucune réaction particulière. Et puis j'ai été très contente d'apprendre que j'allais pouvoir rendre des dossiers. En fait, il y a des épreuves qui étaient orales et qui étaient prévues la semaine avant mon terme. Donc ça, c'était pas possible. Et donc, ils m'ont fait remplir des dossiers. J'ai eu quelques oraux avec Zoom. Enfin voilà, j'avais passé quelques petites choses en visio. Tu vois, c'était déjà avant le Covid, mais quand même. Tous mes profs avaient vachement aménagé ma fin d'année pour que je puisse être tranquille de ce côté-là. Et il y a juste un prof, je me souviens, qui avait une réaction un peu étonnante, qui m'avait dit, mais vous savez, il faut choisir. Je lui ai dit, faut choisir quoi ? Bah, vous voulez faire une thèse ? Une thèse avec un bébé, ce sera pas possible. Hein. Donc voilà, il avait été un peu bizarre.
Hyper virulent, quoi. Ouais.
Ouais, c'était violent. Et là, je me suis regardée, je lui ai dit, écoutez, je suis étonnée quand même, venant de psychologue professeur à l'université, je vous trouve pas très bienveillant avec vos étudiants. Franchement, je sais pas, sur le coup, je me suis sentie pousser des ailes, je me suis dit, c'est ma vie, ça ne regarde que moi. J'ai pas envie d'avoir à choisir entre en fait ça avait tellement été un rêve pour moi d'être étudiante et enceinte ou étudiante et maman que je m'étais dit il y a personne qui va me personne maman va m'embêter en fait hein.
et puis en fait il t'a dit qu'il fallait choisir mais c'était ton choix finalement, c'était déjà un choix.
Oui, c'est ça. Exactement, c'était mon choix, mais je pense que, je me dis avec le recul, peut-être qu'il s'inquiétait, que ma grossesse se passe pas bien, que je dois arrêter, j'imagine plein de choses, mais pour essayer de rationaliser un petit peu son discours, mais oui, c'était un peu étonnant, voilà, il y a eu que cette personne-là qui a été un peu, voire très maladroite.
Il a dû être un peu décontenancé, non, par ta réponse ?
Ouais, il m'avait dit, bon bah écoutez, on va voir comment se passe l'année, hein. Enfin, tu vois, il m'a répondu un truc un peu bateau comme ça, mais tu vois, il n'est pas très confiant, je pense que ça l'étonnait un peu, parce que c'est vrai que c'est très rare, et moi à cette époque-là, j'étais tutrice, et j'avais rencontré une fille qui avait eu son bébé pendant le bac, et qui était là en L2 de psycho, et je lui avais dit, c'est incroyable ce que vous avez vécu, votre parcours, on avait un petit peu discuté, et c'est vrai qu'on se disait que c'était rare, moi j'avais jamais vu de fille enceinte sur les bancs de la fac. C'était nouveau, peut-être que c'est ça aussi qui était... Enfin, nouveau, je ne dis pas que ce n'est jamais arrivé, mais ce prof-là, peut-être qu'il n'avait jamais eu ça dans ses promos et qu'il s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle fait, celle-là? Voilà.
Mais toi, ton rêve se réalisait, puisque tu en parlais, tu avais toujours eu envie, en fait, finalement, d'être enceinte et étudiante en même temps. Quelles sont les difficultés majeures que tu as rencontrées pendant cette grossesse?
Pour moi, ce qui était le plus compliqué, c'était la fin de grossesse. Je dirais que, bon, ce qui a été un peu compliqué, c'est le début de grossesse avec les nausées, où là, j'étais en cours, je m'endormais à moitié, où là, c'était un peu contraignant, mais c'était pas non plus, voilà, c'était fatigue de début de grossesse. J'ai pas du tout eu de nausées et tout ça. Enfin, voilà, donc j'ai quand même eu un début de grossesse plutôt chouette. Deuxième trimestre, pareil, tu vois, comme j'avais que 3 jours de cours par semaine, je pouvais me reposer, je mangeais beaucoup aussi, j'étais beaucoup à la maison, donc je grignotais, voilà, je me faisais plaisir. Par contre, ce qui a été plutôt difficile, c'était la fin de grossesse, j'avais des remontées acides incroyables, j'avais pris énormément de poids, j'ai pris 28 kilos pour la grossesse de Chloé, donc j'étais quand même, voilà, j'avais l'impression de porter des sacs d'eau toute la journée, voilà, j'étais vraiment j'avais pris beaucoup de poids, et je dormais pas beaucoup la nuit, et j'avais mon rendu de mémoire qui avait pris un peu plus de temps que prévu, j'avais pensé tout rendre alors, je crois que c'était début avril. Et en fait, fin avril, j'étais encore dessus, alors que je devais accoucher le 7 mai. Et là, j'ai commencé à flipper un peu. Et j'avais un directeur de mémoire qui, malgré son... comment dire, malgré sa gaieté face à ma grossesse, m'a pas du tout épargné de travail, dans le sens où, et en même temps, voilà, je me suis dit, c'est pas parce que je suis enceinte que j'ai des faveurs, hein, évidemment, mais en fin de grossesse, voilà, une semaine avant le terme, il m'envoie des messages, enfin des mails, pour me dire, il faut modifier ça, il faut faire ci, il faut faire ça, alors que moi, je m'étais quand même imaginé prendre un espèce de petit congé maternité. Je m'étais dit, je rentre tout début avril, comme ça, j'ai 1 mois et 7 jours de vacances, entre guillemets, voilà, pour pouvoir profiter, parce que c'était pas simple à la fin d'aller en cours, en fait, il y a pas de... Peut-être que ça a changé depuis, mais je ne crois pas. Il n'y avait pas de loi par rapport à un congé maternité pour les étudiantes. Et donc, c'était au bon vouloir des profs qui auraient très bien pu me dire, bah non, vous venez en cours jusqu'à la fin. Moi, j'ai eu la chance que ma sage-femme fasse une lettre pour expliquer voilà, que j'avais besoin d'être arrêtée. Voilà, c'était pas un arrêt de travail, hein, mais voilà, elle a demandé au professeur d'accepter mon absence en cours durant le dernier mois. Donc, ça a été accepté tout de suite. Voilà, en fait, il faut vraiment compter sur l'équipe pédagogique. En tout cas, dans mon université, c'était comme ça. Voilà, il n'y avait pas d'aménagement prévu pour les femmes enceintes, donc heureusement que j'ai eu une équipe plutôt chouette, mais ce qui a été voilà, compliqué, c'était que mon directeur de recherche n'était pas forcément toujours très conciliant avec le fait que j'étais en fin de grossesse, et bon, on reviendra sûrement sur le sujet de la naissance, évidemment, mais quand Chloé avait 4 jours, j'ai reçu un email avec 175 commentaires sur mon mémoire, et une note « Veuillez modifier ça pour dans 10 jours. » Voilà, donc ce genre de petits trucs qui te rendent la vie pas très simple quand t'es déjà en train de vivre un chamboulement incroyable lié à la naissance de ton bébé. Voilà, donc ça a été les difficultés sur la fin de grossesse et les débuts de vie avec Chloé. Mais sinon, sur la majorité de la grossesse, ça s'est très bien déroulé.
Et tu t'y attendais pas du tout à ça. Tu pensais vraiment que rendre ton dossier début avril, enfin, mettait fin à ton année scolaire, en fait, finalement, où tu savais qu'il allait y avoir quand même des choses au moment de la naissance.
Alors, en fait, quand j'ai rendu mon mémoire, je savais qu'il allait le corriger, évidemment, et qu'il allait me faire des commentaires, mais je pensais avoir peut-être, deux, trois semaines sans penser à rien devant moi. Puisque donc le terme était au 7 mai et ma soutenance était prévue le 2 juillet, donc la soutenance de fin d'études qui allait décider si j'allais avoir mon master ou pas. Donc je m'étais dit, ça me laisse quand même un petit peu de temps, j'ai 1 mois et demi pour me préparer, je trouvais que c'était... Enfin, moi, je trouvais ça correct à ce moment-là, parce que j'étais tellement à fond. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis... J'ai pas trop réfléchi, en fait. Je me suis dit, allez, on y va. Ok, j'ai 1 mois et demi pour préparer ça, avec un bébé en postpartum. Ok, on y va. Voilà, je...
Tu étais avertie du postpartum. Tu savais ce que c'était. Enfin, tu étais renseignée sur tout ça ou tu as découvert vraiment sur le tard?
Alors, pendant la grossesse, comme j'ai été vraiment passionnée de périnat toutes mes études, j'étais ultra renseignée sur l'après. Sur le postpartum, moi je m'étais énormément préparée à l'été, parce que pour moi c'était inenvisageable que je n'allaite pas. Je m'étais beaucoup renseignée sur le portage, j'avais fait au moins 5 cours de portage pour la grossesse, ce truc généralement tu en fais un, moi j'en ai fait 5, je voulais absolument apprendre à porter dans le dos, sur le ventre, etc. Et du coup je me sentais en tout cas très très prête pour le postpartum. J'avais demandé voilà, à mes copines si elles pouvaient m'apporter des petits plats, des petits trucs, enfin j'avais essayé de faire pour que ce soit une période plus douce, et je croyais vraiment être prête. Je pensais vraiment être préparée au postpartum, théoriquement. Parce que, par contre, pour la naissance, même si j'ai eu une préparation à la naissance, on a fait de l'autonomie pendant la grossesse, et puis une prépa plus classique avec les cours, quand est-ce qu'on part, etc. Je pense que j'ai fait un gros déni du fait de devoir accoucher. En fait, au départ, avant de tomber enceinte, je m'étais toujours dit, si je tombe enceinte, j'aurai un projet de naissance, j'accoucherai sans péridurale. Moi, j'étais vraiment très focalisée là-dessus. Et quand je suis tombée enceinte, je me suis dit, écoute, tu sais pas comment ton accouchement va se passer, ce sera peut-être à mille lieues de ce que tu auras imaginé, donc peut-être qu'il vaut mieux ne pas faire de projet, peut-être qu'il vaut mieux ne pas trop se projeter et voir ce qui se passe le jour J. bon, si c'était à refaire, mais puisque je suis à nouveau enceinte, je ne pense plus du tout les choses de cette manière-là. Hein. Par contre, pour le postpartum, j'avais l'impression en tout cas d'être super prête parce que j'avais énormément lu, mais ça, c'était très théorique. La pratique a été bien différente.
Avant de passer justement à ce postpartum et tout ça, qu'est-ce qui était quand même hyper génial dans cette conciliation entre études et grossesse? Qu'est-ce que tu as préféré? Qu'est-ce que tu en retires d'extrêmement positif, toi?
Alors, ce qui a été positif, c'est, je n'ai pas le mot en français, je l'ai en anglais, l'empowerment, vraiment ouais. le fait de me sentir capable de tout faire. Je me disais, j'arrive à concilier les deux. Autour de moi, quand on a annoncé la grossesse, il n'y a personne qui a eu de réaction type « Oh, ma pauvre, comment tu vas faire ?» Alors que moi, je m'attendais peut-être un peu à ça. Je me disais quand même, je suis étudiante, j'ai pas de... Moi, j'avais pas mal de copines autour de moi qui me disaient « Ah, mais moi, faudra que j'achète ma maison, faudra que j'ai un CDI avant d'avoir un bébé. » J'étais pas du tout dans ce projet-là. Mais personne, pour autant, m'a dit que ça allait être compliqué. En fait, tout le monde était super content en me disant « Mais tu sais, ça va super bien se passer, ça va être super. » Voilà, avec Tristan, on était... En fait, je pense qu'on était tellement... J'étais tellement sûre que ça allait bien se passer que finalement, ça m'a vraiment donné des ailes et ça, c'était super. Et puis, le fait de, comme je te disais tout à l'heure, d'avoir que mon ventre grossissait au fur et à mesure de l'année, c'était génial. Parce que du coup, j'allais à la fac, j'avais un gros bidon. Mes copines de fac, elles étaient c'était toujours très bienveillantes. On me proposait un coussin en cours. Enfin, c'était très mignon. Il y avait beaucoup d'attention. Quand j'avais raté un cours, on m'envoyait les cours très facilement. On me prenait beaucoup de nouvelles. Enfin, je trouve que la période de grossesse, elle est très coucounante et peut-être je l'ai peut-être vécu de manière un peu plus cocooning par rapport à la fac parce que j'étais avec des personnes qui étaient qui elles ne souhaitaient pas du tout vivre ça et qui étaient un peu fascinées quoi mais comment tu vas faire pour le rendu de mémoire puis ça va aller pour cet oral puis moi j'étais mais oui mais je peux tout faire c'est génial donc vraiment je me suis sentie tellement confiante et puis j'étais tellement heureuse d'attendre ce bébé enfin c'était incroyable c'était ouais. Super
la naissance arrive tu donnes naissance donc à Chloé une belle petite fille donc le 15 mai qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu deviens maman? Est-ce que tu c'était exactement comme tu l'imaginais ou pas du tout?
Pas trop en fait je me suis enfin Chloé s'est beaucoup fait attendre. Je pense qu'on aurait pu l'appeler Désirée hein, puisque j'ai dépassé mon terme de 7 jours hein. Et ça a été très très dur. En fin de grossesse, j'attendais vraiment cette rencontre et je voyais que ça n'arrivait pas. Je n'ai jamais eu une seule contraction de toute ma grossesse. Je n'ai jamais eu mal au ventre. Je disais à mes copines, la grossesse, c'est mon état normal. Enfin, vraiment, c'est incroyable. Pour moi, être enceinte, c'était le quotidien. Et peut-être que j'avais du mal justement à accepter que ça allait partir. Peut-être que bon, j'ai pas d'explication, je ne détiens pas la vérité sur mon dépassement de terme, mais je me dis quelque part, peut-être que je ne voulais pas lâcher ça. Ça a été compliqué pour moi de réaliser que la grossesse avait une fin, parce que j'étais trop bien, j'étais vraiment trop bien. Et donc, quand j'ai dépassé mon terme, tu vois, on arrive au 7 mai, je me dis tiens, bon, si j'accouche pas aujourd'hui, ce sera peut-être demain. Et là, 8 mai, on me dit, demain, vous venez à la maternité faire... un monitoring, une écho, pour voir si tout va bien. J'arrive, la sage-femme fait l'écho, elle me dit « j'ai rarement vu autant de liquide amniotique hein. ». Elle me dit « là, ça doit être la fête là-dedans, c'est une vraie piscine ». Donc là, je me dis « ok, elle n'est pas prête de partir si elle est tellement bien ». Voilà. Et si je suis tellement bien ? Et par contre, elle me dit que mon col, je n'ai pas les termes exacts, mais que c'est en bonne voie. Elle me dit « je ne vous revois pas dans deux jours ».
Et deux jours après, tu y étais.
Je reviens, bonjour, c'est encore moi. Donc là, même si je faisais de l'humour, je commençais sérieusement à péter les plombs. Je pleurais pour rien. Quand je dis pour rien, j'étais à fleur de peau. Le moindre truc que je vivais mal était source de pleurs pendant des heures et des heures. Enfin, j'ai lu a posteriori qu'avant la naissance, le corps se prépare à donner naissance et apparemment ça peut induire une sensibilité extrême de la maman Et je me suis dit que j'avais sûrement voilà, vécu ça. C'était incroyable. Je n'avais jamais été aussi triste de ma vie. Alors je me disais, mais c'est fou, il faut quand même que je sois en forme pour donner naissance à ma fille. Et en fait, ça a été une des semaines les plus tristes de ma vie. Voilà, c'était assez étonnant. Pas triste lié à une souffrance, hein, mais juste, j'étais vraiment pas dans mon état normal. Et Tristan me disait, écoute, j'ai l'impression que tu es en train de vriller, quoi. Il me disait, t'es super mal, tu pleures tout le temps, je sais pas quoi faire. Voilà, il était vraiment désolé pour moi. Et voilà, je sais pas du tout pourquoi ça a déclenché une telle tristesse en moi, ce dépassement. Je me suis dit, ça ne va jamais venir, je ne vais jamais accoucher. 6 jours plus tard, je refais mon dernier monito et mon écho. Et là, bon, la sage-femme me dit, écoutez, vous allez venir... Vous allez venir demain à 7h, je crois, pour être déclenchée, sachant que depuis le jour de mon terme, j'avais tout fait. J'ai fait ostéo, acupuncture, marché des kilomètres et des kilomètres. Finalement, j'aurais dû dormir. Hein. J'aurais quand même pu me reposer avant ce grand marathon qu'on allait vivre, mais ça, je ne le savais pas encore. Je faisais les vitres, enfin, j'avais écouté tous les conseils, tisane de framboisie. Enfin bref, j'avais vraiment, tous les jours, je tentais un nouveau truc pour accoucher. Bon. Et finalement, on se pointe à la maternité. On est le 14 mai et je me dis, le déclenchement, ça induit une date d'anniversaire, une date en tout cas de naissance qui est choisie. C'est assez étonnant, je trouve. Tu vois, comme quand il y a un déclenchement programmé, une césarienne programmée, tu arrives et tu te dis, mon enfant naîtra le 5 décembre, enfin, n'importe quelle date. C'est assez étonnant, je trouve. Alors que moi, je m'étais imaginé vivre les choses spontanément. Donc, ça a été un petit deuil, entre guillemets, d'arriver à ce déclenchement en me disant, ça ne sera pas... Voilà, je ne vivrai pas les contractions. Tu te dis, oh là là, est-ce qu'il faut partir ou pas? Est-ce que je prends un bain pour calmer un petit peu les contractions? Voilà, moi, je n'ai jamais eu ça. Hein, le jour où je suis arrivée au déclenchement, je n'avais jamais eu une contraction. Je ne savais même pas ce que c'était que d'avoir le ventre un peu dur. Enfin, c'était incroyable. Hein, je partais de loin. Donc voilà, j'arrive à mon rendez-vous pour accoucher. Et donc... il y avait un staff médical qui devait décider si on voulait poser un tampon d'hormones ou une perfusion d'ocytocine. Et comme c'était mon premier, ils ont décidé de faire les choses en douceur et donc de poser un tampon d'hormones qui a été posé à 8h, je crois. Et ils m'ont dit, n'hésitez pas à marcher toute la journée, faites du ballon, faites ci, faites ça. On a marché toute la journée avec mon mari, j'étais épuisée. Je me suis dit, mince, quand même, après, il va falloir accoucher. Hein. Donc, c'est compliqué, je trouve, parce que quand... je ne sais pas si c'est à tous les déclenchements qu'il y a ces conseils-là, mais marcher, ça va déclencher le travail. Mais en fait, quand ton travail commence, tu es déjà complètement fatiguée quand ça prend du temps, parce qu'il y a des déclenchements qui prennent plus ou moins de temps. Mais voilà, moi, les contractions commencent à 18h. Donc, tu vois, on a eu toute la journée de 8h à 18h à marcher, à faire du ballon, à faire tout et n'importe quoi pour pouvoir déclencher les contractions. Et finalement, à 18h, ça arrive. Je me sentais plutôt bien. J'étais dans ma bulle, je me concentrais sur ce qui se passait en moi. Et vers minuit, ça commençait vraiment à s'intensifier. On part en salle de naissance et là, une sage-femme... Parce qu'en fait, quand tu es en déclenchement, tu n'es pas en salle de naissance, tu es... moi, j'étais dans les grossesses pathologiques. C'est juste en face des salles de naissance, c'est des chambres, en fait. C'est comme les chambres de la maternité classique. Enfin, c'est pour m'éviter à moi, qui ne suis pas en train d'accoucher, de mobiliser une salle de naissance pour rien. Donc, on me transfère en salle de naissance. Et là, une sage-femme arrive. Moi, j'étais prête à essayer de faire le plus possible de travail sans péridurale. Et là, elle me dit, écoutez, c'est un peu le baby-boom... en ce moment, l'anesthésiste a énormément de travail, si vous voulez la péridurale, c'est maintenant ou jamais. Et là, je regarde mon mari, je lui dis,
c'est hyper violent.
Ah oui. Oui, sur le coup, j'ai pas du tout fait attention à la portée de ces mots. J'ai regardé mon mari, je lui ai dit, enfin, qu'est-ce que je fais? Il me dit, écoute, t'es super fatiguée. Moi je sais pas, je pense que c'est ton corps, c'est à toi de décider. Moi j'ai juste peur que tu sois trop fatiguée et que ça devienne compliqué. Il m'a dit, écoute, je pense que ça va aller, enfin, quoi que soit la décision que tu prennes, moi je veux juste pas que tu sois trop épuisée, donc il me dit peut-être que c'est le bon moment. Puis moi j'avais pas du tout briefé Tristan pour ce moment-là, parce que j'avais pas ce projet, comme je te disais tout à l'heure, j'avais pas ce projet pur et dur, j'accoucherai sans péri, etc. Donc je l'avais pas forcément briefé, je m'étais dit je prendrai la péri si besoin, etc. Donc là pour le coup la sage-femme me dit ça, je me sens un peu comme une gamine. Ah oui d'accord, je vais prendre la péridurale, ok. Donc là, on me pose la péridurale alors que je gérais bien, je me sentais bien, je n'avais pas hyper mal, c'était top. Et donc, moi, je me retrouvais avec ma péridurale couchée. Le travail se ralentit, mais d'une manière incroyable. Je suis couchée dans une position passive et en fait, on a attendu notre bébé, quoi. Et j'ai attendu qu'elle fasse le travail toute seule, finalement. Moi, j'étais là et puis, bon, bah, j'attendais. Donc là, il était minuit. Et bah, j'ai mis très 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 longtemps à être complètement dilatée. C'est seulement à 9h que ça y est, c'est le moment d'accoucher. Donc par chance, j'avais une péridurale peu dosée, avec un petit, une petite molette, tu appuies, voilà, un petit truc où tu pousses.
Une petite télécommande, en fait c'est toi qui gères. Ouais.
Exactement, donc j'avais pas trop dosé, donc je sentais quand même plutôt bien ce qui se passait, même si on peut pas dire non plus que je sentais tout. Et donc là, je pousse, il ne se passe absolument rien du tout. Et la sage-femme me dit, là il faut pousser, je lui dis, mais non mais j'ai pas envie de pousser en fait, j'avais l'impression qu'elle me guidait beaucoup alors que j'étais pas forcément dans ces sensations là et donc bah, je pousse, il ne se passe rien. Et là elle me dit, écoutez, normalement au bout de 20 minutes c'est les instruments. Je lui dis, laissez-moi un peu de temps s'il vous plaît, laissez-moi un petit peu de temps. Et là je pousse mais comme une dingue, vraiment je me suis tuée à la tâche, alors que là on est quand même dans le contexte où je n'ai pas dormi depuis 6 heures la veille. Je suis complètement éclatée, je n'ai pas pu dormir, même avec la péridurale. J'étais tellement en attente de rencontrer ma fille que je n'ai pas pu me reposer à ce moment-là. Et donc, bah, au bout de 40 minutes, elle me dit, écoutez, j'ai laissé plus de temps que prévu, là, on va quand même appeler le gynécologue, on va mettre des ventouses, vous allez voir, ça va très bien se passer, etc. Et donc, j'ai le souvenir vraiment de toute l'équipe qui débarque, le gynécologue, l'interne, tout le tralala, enfin vraiment c'était le bordel, c'était vraiment le bordel, alors qu'à ce moment-là j'avais vraiment besoin d'être
dans ta bulle,
tranquille quoi, dans ma bulle, ce qui était
simple.
C'est ça. Et comme comme j'avais pas de projet de naissance, j'ai pas pu gérer ça à ce moment-là, demander à ce qu'il y ait moins de personnes, etc. Je me suis un peu laissée porter. Et donc j'ai un souvenir très clair de voir le gynécologue me tirer comme un malade sur la ventouse et me dire, oh, mais ma fille, elle va s'écraser contre un mur. Enfin vraiment, j'étais assez impressionnée par la force qu'il avait. Enfin j'avais l'impression qu'il mettait une force démesurée dans le fait de tirer sur cette ventouse. Et même avec la ventouse, ça a pris du temps. Et donc au bout d'un moment, plus personne ne parle. Tout le monde est très concentré. Tristan est à côté de moi. Il voulait absolument rester à côté de moi. Par contre, il ne voulait pas forcément regarder ce qui se passait en bas. Donc, j'étais à côté de lui. Et je lui dis, pourquoi tout le monde est bizarre là ? J'ai eu un moment de panique. Je lui dis, faut que tu regardes. Parce que moi, en fait, je ne sais pas pourquoi, j'ai cru qu'elle était morte. Parce que tout le monde a fait une tête très bizarre. Comme si ça durait trop longtemps, comme s'il y avait un problème. Et donc je dis à Tristan, regarde. Et là, Tristan regarde et Chloé sort. D'un coup. Tristan qui m'avait dit, je resterai toujours avec toi, par contre je veux pas trop voir, parce que il avait un peu peur de comment ça allait se passer. Et là, il la voit sortir et en fait, il est devenu tout blanc. Parce que je sais pas exactement ce qui s'est passé dans sa tête, mais comme tu vois, tu sors le bébé, il est pas tout de suite très animé, tu vois, elle bouge pas énormément, elle a un peu sonné de tout ce qui vient de se passer, et il a cru qu'elle avait un souci. Et là, je le vois virer au blanc, on me la pose sur moi, je rencontre ma fille, et là Tristan dit, faut que je sorte une minute. Et en fait, il était super mal, parce qu'il a cru qu'il s'était passé quelque chose de grave, en tout cas que Chloé avait un souci, qu'il est sorti 10 secondes, et moi là, je me suis mise à pleurer en me disant, c'est mon bébé. J'ai dû répéter ça au moins 10 fois. C'est mon bébé. Ça y est, elle est là. Et elle a posé son regard sur moi. C'était un regard tellement profond. Tu vois, le regard comme si elle savait déjà tout de moi. C'était vraiment très, très, très étrange, ce moment-là où ça y est, on se rencontre, quoi. Et après tant de temps passé ensemble, de temps à l'attendre, ça y est. Donc là, Tristan revient, il part faire les petits soins, etc. Moi, je me fais recoudre un grand moment. très grand moment, parce que j'avais eu quelques petits poids. Chloé faisait 4,4 kg quand même, hein. Donc c'était...
un beau bébé.
Un très très beau bébé. Hein.
Bah, elle a fait du rab aussi. Hein.
C'est ça, elle a eu le temps de se faire toute belle. Et voilà, nous voilà parents. Donc je crois que j'arrive enfin à la question que tu me posais tout à l'heure. Je crois que tu m'as demandé comment je me suis sentie, c'est ça?
Ouais, mais entre-temps, j'ai d'autres questions et je pense que c'est important que je te les pose là maintenant avant de passer à autre chose. J'en ai deux qui sont... Et en plus, ça tombe plutôt bien parce que tu es psychologue. Donc en fait, peut-être que tu t'es posé ces questions-là aussi. Quand tu t'imaginais ce rêve de grossesse en même temps que tes études, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu t'imaginais avec un bébé pendant tes études ou est-ce que tu t'imaginais enceinte pendant tes études? C'était quoi ton idéal à toi?
Je m'imaginais enceinte à la base parce que je ne savais pas trop ce que c'était que d'avoir un bébé finalement. C'était très théorique, et même si dans mes stages j'avais rencontré des mamans et que j'avais l'impression de savoir ce qu'elles vivaient, enfin de savoir, en tout cas d'appréhender un peu plus que ce que ces mamans-là vivaient, je ne savais pas du tout comment ça allait se passer pour moi, mais ma décision d'allaiter, qui a finalement même pas été une décision, parce que pour moi c'était, j'allais allaiter, il n'y avait pas d'autre option, je m'imaginais pouvoir tout faire avec ma fille, aller à mon mémoire, je me souviens, je m'étais dit, ma soutenance de mémoire, elle sera dans l'écharpe, je l'allaiterai pendant que je ferai ma soutenance, enfin, j'avais imaginé des moments comme ça, mais c'est tout, c'est vrai que je m'étais pas forcément... Voilà, c'était plus la grossesse, pour le coup, que j'imaginais.
Je te posais la question parce que moi, je trouve ça hyper intéressant, le parallèle que tu as fait au début, où tu disais peut-être qu'en fait, j'avais pas vraiment envie de la laisser sortir et que c'est pour ça qu'elle est restée longtemps. Je te pose la question parce que je l'ai vécu ça aussi, donc c'est quelque chose qui me parle, ce dépassement de terme, parce qu'en fait, parce que t'es tellement bien dans cet état aussi de grossesse que t'as pas envie que ça se termine et que t'envisages pas que ça se termine, ce côté de pas forcément préparer la naissance parce qu'on verra bien et parce que finalement c'est pas tellement un truc que t'envisages et c'est pas tellement le projet, c'est la grossesse, donc je l'entends en fait et c'est parce que ça me parle que je te pose la question. Voilà, et ensuite moi j'aimerais savoir plus par rapport à ton accouchement psychologiquement, comment aujourd'hui avec le recul tu le vis cet accouchement? Est-ce que tu as pu l'analyser? Est-ce que tu as pu comprendre ce qui s'était passé ou pas?
Alors, j'ai beaucoup réfléchi par rapport à mon dépassement de terme, puisque en psychologie de la périnatalité, il y a plusieurs auteurs qui parlent de l'arrivée au monde d'un enfant. Et alors je ne sais plus exactement lequel disait que la première des 7 étapes que vit le bébé quand il arrive au monde, c'est le désir de naître. Et moi, ça m'avait marqué de lire ça, de lire ce chapitre dans un bouquin de périnat, parce que je me suis dit, mais moi, elle n'a pas désiré naître, enfin, elle n'a pas choisi, en tout cas, de naître à ce moment-là, puisque si j'étais pas allée à ce déclenchement, peut-être qu'elle serait née 2 jours plus tard, 3 jours plus tard, on ne sait pas, en fait. Et ce qui a été compliqué pour moi, c'est de ne pas savoir ce qui se serait passé si je ne m'étais pas rendue à ce déclenchement, en fait. C'est assez bizarre, mais le fait de ne jamais savoir comment elle serait née, comment le travail se serait déclenché, et même si au début, je trouvais que j'avais eu un bel accouchement, ça m'a... J'étais plutôt... voilà, j'étais contente d'avoir mon bébé, etc. Mais après, petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais tellement peu préparé cette naissance que finalement, je me suis rendu compte de tout ce que j'avais mal vécu à ce moment-là. Et cette passivité, c'est ce qui m'a le plus marquée. Tu vois, le fait d'être couchée sur le dos et d'attendre. Juste d'attendre. Alors que... maintenant que je m'intéresse beaucoup plus à la physiologie de l'accouchement, je me dis en fait c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. La naissance c'est un travail à deux, c'est le bébé travaille, la maman travaille, bon, le conjoint ou la conjointe est aussi présent, mais bon, on reste quand même centré dans le corps de la femme qui accouche. Et voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé avec la psychologue qui me supervise et qui en même temps fait mon travail d'analyse personnelle autour de ces questions-là, de pourquoi j'ai été si passive, voilà, j'avais vraiment l'impression d'attendre qu'elle naisse alors que le travail était aussi de mon côté. Alors, c'est moi qui ai accouché, hein. Elle n'est pas venue comme ça par miracle, mais cette naissance, elle m'a vraiment fait prendre conscience que j'avais besoin, pour une prochaine naissance, d'être complètement actrice et de savoir exactement où c'est que j'allais m'orienter. Bon, j'en parlerai peut-être un petit peu plus tard, mais voilà, c'est vrai que j'ai eu vraiment besoin de revenir dessus. Et sur cette passivité. Je pense que le mot passivité, c'est ce qui pourrait vraiment venir en moi spontanément quand j'évoque cette naissance, c'est l'attente. Ouais.
Et j'ai l'impression qu'aussi, l'extérieur a été hyper intrusif finalement dans ton histoire avec cette sage-femme qui te dit la péridurale, c'est tout de suite ou jamais, sans même pas s'intéresser à ton désir et sans même te laisser entendre que tu pouvais juste prendre une décision par toi-même. Et c'était elle qui imposait ce timing aussi. Moi, ça me choque énormément, ces 20 minutes et pas une de plus, alors qu'en fait, c'est tellement la nature qui décide et pas les médecins avec leurs 20 minutes que ça pour moi c'est un total non-sens ce temps. Tout ça en fait mis bout à bout, tu te dis mais ouais, la physiologie, la bulle dans laquelle tu es censé te trouver, en fait elle n'était pas là.
Exactement. Et pendant la naissance, le but c'est de déconnecter de cette partie de notre cerveau qui réfléchit pour se connecter à nos sensations. Et ça, je trouve qu'en maternité, je pense que je ne suis pas du tout en train de dire qu'au CHU, c'est pas possible, pas du tout. Mais je pense qu'il faut quand même être bien préparé et avertir les équipes soignantes de ce qu'on souhaite pour une naissance. J'aimerais peut-être avoir une lumière un peu plus tamisée, peut-être qu'au moment de donner naissance au bébé, il y ait moins de monde que prévu, parce que c'est vrai que souvent les stagiaires débarquent, les auxpuaires, etc., il y a beaucoup de monde. Et donc là, demander peut-être à être avec un comité très très réduit peut-être, voilà, en tout cas essayer de tout faire pour qu'on puisse être dans notre bulle à ce moment-là. Et puis tu vois, je pense par exemple à la péridurale, cette sage-femme, je pense qu'elle se serait pas permise de me proposer ça si j'avais eu un projet de naissance et si j'avais expliqué à l'équipe, voilà, écoutez, je ne sais pas.
Mais je sais pas, parce que tu as ce côté surcharge, parce que c'est ça finalement ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait tellement d'accouchements qu'en fait le personnel médical, le personnel soignant était surchargé. Et c'est là le problème, et c'est à partir de là que la physiologie s'arrête. C'est que la priorité, c'est plus la personne, c'est le chiffre, et c'est là que le problème se pose. Et moi, je suis convaincue aussi qu'en centre hospitalier, tu peux avoir un accouchement qui respecte la physiologie, mais maintenant, il faut donner les moyens aux personnes qui encadrent, qui sont présentes pour les femmes lors de leur accouchement. Il faut leur donner des moyens financiers, des moyens de nombre et ce genre de choses pour que ça fonctionne. Dans les situations actuelles, c'est un peu compliqué quand même.
Exactement. Voilà, je pense que c'est effectivement peut-être plus simple pour les équipes soignantes qui ont déjà énormément de charges, hein, pour avoir fait mes 2 ans de recherche sur les sages-femmes. Voilà, il y en avait beaucoup qui disaient on a tellement de travail, tellement de charges administratives. C'est ce qui revenait le plus dans mes recherches. C'était la charge administrative de devoir remplir des dossiers, de devoir écrire beaucoup de choses sur le déroulé des naissances qui font qu'elles sont pas forcément disponibles. Et donc avec une femme sous péridurale est moins contraignante, entre guillemets, qu'une femme qui accouche sans péridurale, qui aura besoin peut-être d'un peu plus de soutien de la part de la sage-femme. Voilà, en tout cas, c'est comme ça que dans mes recherches,
ça s'entend,
parce qu'il y a tellement de choses à faire, tellement de femmes en travail, qu'une femme sous péridurale fait moins de bruit. Enfin, fait moins de bruit. Je ne parle pas du bruit, mais en tout cas, est moins demandeuse.
Ouais, non, bien sûr. Alors qu'en fait, pour l'expérience par rapport aux épisodes de Prenons un café, dans d'autres pays, par exemple, ça ne se passe pas comme ça, où en fait, il y a les sages-femmes. Enfin, il y a une sage-femme pour une maman, en fait, qui est là 24... Enfin, pas 24 heures sur 24, parce qu'on n'accouche pas forcément pendant 24 heures, mais qui est là vraiment pendant tout le déroulé de la naissance, et qui est là pour elle, si elle en a besoin, et si elle le demande, et qui est là juste pour elle, et qui est dédiée. Alors qu'on ne peut pas demander à une personne de remplir des dossiers sur une naissance quand, en fait, la priorité n'est pas mise, à mon sens, au bon endroit, finalement.
Exactement.
Alors qu'il y a des personnels administratifs qui sauraient très bien remplir ce job de rédaction, finalement.
Bien sûr. Et autant, je l'ai quand même trouvé, malgré ce qui a été un peu difficile à vivre lors de cette naissance, j'ai trouvé, pour ma part, que l'équipe en salle de naissance était quand même bien plus bienveillante et présente qu'en suite de couche. Tu vois, là, je t'ai parlé que de mes difficultés, mais pendant le travail, il y a quand même plusieurs sages-femmes qui sont venues me voir en me disant, écoutez, vous êtes quand même debout depuis 6 heures la veille, c'est super ce que vous faites, vous êtes incroyable. Enfin, voilà, des femmes comme ça qui viennent, des sages-femmes qui viennent te donner un coup de boost, qui te proposent de l'acupuncture, des massages. Enfin, voilà, j'ai eu quand même aussi une autre partie des soignants qui étaient vraiment très, très à l'écoute. C'est ce que j'ai beaucoup moins retrouvé pour ma part en suite de couche. Voilà, ça a été... Ouais. Là, ça a été beaucoup plus compliqué pour moi de découvrir le postpartum et d'être à l'hôpital. Ça a été, ouais. Ça a été dur pour moi d'être à l'hôpital après la naissance.
Pourquoi ? Parce que tu avais cette sensation d'être assimilé l'hôpital à la maladie ou c'est autre chose ?
Non, pas du tout. Pour le coup, j'associais pas le... Enfin, forcément, l'hôpital, c'est bien évidemment fait pour les personnes qui ont, entre autres, des soucis. Mais là, pour le coup, c'était plutôt le fait que suite à la naissance, j'arrivais pas à dormir, en fait. J'arrivais pas du tout à dormir. Donc, tu vois, ça faisait déjà 2 jours que j'étais réveillée, que j'étais dans un état de fatigue très intense. Et là, ben, c'est là que je suis passée à la pratique, quoi. Ma fille était là. Et en fait, j'ai pas eu l'impression, tu vois, on parle beaucoup de ce shoot d'amour à la naissance, que c'est incroyable, que là on se sent traversé par, enfin voilà, tout le côté très idéal de la maternité, c'est magnifique, c'est que du bonheur, tu vois. Je me souviens d'une copine qui m'avait envoyé, je suis sûre que c'est que du bonheur. Et là, j'avais lu ce message en me disant, ah non, en fait, hein. Ah non, c'est la guerre dans mon corps. Je viens de donner naissance à un bébé de 4,4 kg. Je ne peux pas faire pipi sans mettre de l'eau parce que sinon, ça me fait trop mal. J'ai du mal à m'asseoir, j'ai du mal à marcher. Mon allaitement, mes débuts d'allaitement ont été juste horribles. C'était horrible, ça me faisait très, très, très mal. Ça a été, voilà, vraiment, j'ai trouvé que le postpartum, même si je m'y étais énormément préparée, j'ai quand même pris une grosse claque. Et puis, l'équipe soignante qui vient toutes les 2 heures vérifier si ça va bien. Comme ma fille est née en dépassement de terre, mais avait un gros poids, il fallait faire un dextro. Je crois que je ne me trompe pas, hein. Il fallait lui faire une petite piqûre de temps en temps sur le pouce pour vérifier, je pense, sa glycémie. J'espère vraiment que je ne dis pas de bêtises. Et donc, elle venait beaucoup, les repas, enfin voilà, il y a énormément d'interventions. Et donc, je me sentais pas du tout dans ma petite bulle avec ma fille. J'entendais les brancards des femmes qui venaient d'accoucher passer dans le couloir, à côté de ma chambre, parce que nous, on voulait pas de visite. On a juste autorisé ma maman et mes beaux-parents à venir nous rendre visite pendant 1 heure sur toute la durée de notre séjour à la maternité, parce que je savais que c'était trop compliqué pour les bébés et pour les mamans de subir toutes ces visites. Moi, vraiment, mon postpartum a été... j'avais très envie de rentrer, en fait. Ça a été un peu compliqué. Et, tu vois, je te parlais de cette vague d'amour. Moi, je ne l'ai pas tellement ressentie. Et c'est vrai que j'avais pour habitude de dire aux patientes en stage, mais vous savez, on ne ressent pas tous cette vague d'amour-là pour son bébé, parce que c'est une nouvelle personne. On apprend à se connaître. Et quand moi, je n'ai pas vécu cette vague d'amour, je me suis dit, ah ouais, ça fait cet effet-là. Parce que je me disais, tiens, c'est ma fille. Elle va rentrer avec nous à la maison, elle sera toujours là. Et j'avais l'impression, c'est très dur, j'avais l'impression de ne pas l'aimer, de ne pas être très heureuse qu'elle soit là. C'était assez étonnant, j'étais très concentrée sur ce qui se passait dans mon corps en me disant, oh là là, je souffre, mes débuts d'allaitement sont compliqués, il y avait beaucoup de difficultés. Et voilà, c'est vrai que ça a été... C'était pas simple. Je pense que j'ai mis 2 semaines. Après, on est rentré à la maison avec la responsabilité, mais tellement intense, d'arriver à la maison avec un bébé et de se dire waouh, ça y est, c'est le début. Et là, on est seul. Il y a plus, je peux plus appeler la sage-femme ou l'infirmière qui va venir me donner des petits conseils pour allaiter. Là, je suis toute seule. Enfin, je suis toute seule. On était très entourés par notre famille, mais quand même, c'est toi qui vis avec ton enfant. Et ouais, j'ai mis 2 semaines à... Je sais pas comment t'expliquer. Je me suis levée un matin avec elle parce qu'on était en cododo et je l'allaitais. Et je me suis dit, c'est l'amour de ma vie, cette personne. Et j'ai mis quand même 2 semaines à me remettre de cette naissance. Ouais. Je pense que c'était tellement intense au niveau de la fatigue que j'avais du mal à me concentrer sur tout cet amour que j'allais pouvoir ressentir. Et c'était... Ouais. Là, par contre, la vague, je l'ai ressentie au bout de 2 semaines. Elle a été très intense. quant à Tristan, qui lui l'a ressenti quand il a fait les premiers soins à la maternité. Lui, il m'a dit c'était incroyable. Je me suis retrouvée face à ma fille en train de l'habiller. Il m'a dit c'était le plus beau jour de ma vie. Moi, mon accouchement, c'était pas du tout le plus beau jour de ma vie. J'adore ce souvenir du regard de ma fille qui me transperce et de me dire ça y est, elle est là, quoi. C'est beau, mais je peux pas dire que l'accouchement, c'est un moment. Mais en tout cas, pour ma part, ce premier accouchement, ça a été un jour quand même un peu fatigant.
Un peu fatigant.
Un tout petit peu. Hein. Rien qu'un petit peu.
On va revenir sur, tu vois, tout à l'heure, tu nous parlais de ce retour de correction de mémoire qui intervient pendant ton postpartum. À quel moment tu as reçu ces corrections et comment tu les as gérées en fait ? Comment tu as géré cette partie-là ? Parce que là, c'était plus seulement question de vivre ta grossesse avec la fatigue que ça pouvait engendrer et avoir... Parce que finalement, quand tu n'étais pas en train de te reposer, tu avais le temps de t'occuper de tes études. Avec un bébé, c'est quand même pas la même histoire. Comment tu gères ça ?
Alors, Chloé avait, je crois, 4 jours à peu près quand j'ai reçu ce fameux mail. Mon directeur de recherche m'avait envoyé un petit mail un ou deux jours avant pour me dire félicitations, parce que j'avais quand même envoyé un petit mot. Tout le monde s'était un petit peu inquiété sur ma fin de grossesse en se disant, tiens, pourquoi elle n'accouche pas ? Et donc là, je m'étais dit, allez, je fais un petit mail un peu collectif pour annoncer au prof que ça y est, elle est bien née. Et donc voilà, le lendemain ou le surlendemain, je reçois ce mail avec assez 500 000 commentaires sur mon mémoire, avec énormément de choses qui, soi-disant, n'allaient pas, mais ils ne s'en étaient pas rendus compte. Tu vois, le genre de truc, mon mémoire, il le disait plusieurs fois par mois, depuis des mois et des mois. Et là, il fallait changer des choses quand même assez importantes. Et donc, je me retrouve à me dire, mais comment je vais faire ? Mais comment je vais faire ? Et Tristan, toujours très cool, c'est quelqu'un de très zen, me dit, t'inquiète pas, ça va le faire. Moi, tu sais, je m'occupe de Chloé, je te l'amène pour allaiter. Si t'as besoin de travailler, il n'y a pas de souci, je suis avec elle. Et puis, ce qui a été un peu plus simple, c'est qu'elle dormait beaucoup quand elle était toute petite. Et donc ça, c'est plutôt pratique dans le sens où je l'avais en écharpe et puis elle dormait. Et moi, j'étais sur mon ordinateur. D'ailleurs, ça me fait rire parce que j'avais fait plein de petites photos comme ça que j'envoyais à mes copines. Ah, regardez, je suis en train de travailler avec ma petite poulette sur moi. Bon, pas à 4 jours. Hein. J'ai attendu quand même un peu d'être un peu plus reposée. Et puis, comme mes débuts d'allaitement ont été très compliqués, il a fallu que je tire mon lait toutes les 3 heures pour stimuler. La montée de lait, c'était difficile. Enfin, franchement, je me suis ultra accrochée pour allaiter. Je pense que j'étais tellement préparée à allaiter et que pour moi, il n'y avait pas d'autre option que j'étais... j'ai pas baissé les bras. Pourtant, je pense que ça aurait pu. Voilà, donc après, l'allaitement s'est mis en place, j'ai pu reprendre des petits, comme je disais, quand Chloé dormait sur moi, je pouvais travailler, voilà, ça a été, ce qui était compliqué, c'est de pas avoir, tu sais, le congé maternité et repos, quoi. Parce que là, il fallait que je pense à ma soutenance. Mais bon, j'ai quand même réussi à rendre mon mémoire final. Et en disant à mon directeur, parce qu'il me demandait de faire des statistiques supplémentaires qui n'étaient pas du tout prévues au programme. Tu vois, le genre de truc. Oh, tiens donc, ce serait bien que vous fassiez ça, 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 ça. Et donc là, comme à mon prof, quand j'avais annoncé la naissance, qui j'avais répondu de manière un peu virulente, j'ai envoyé un mail, j'ai dit, je ne suis désolée, je ne ferai pas ça, il fallait me le demander avant. Point. Il m'en a jamais reparlé.
Ah oui, t'as, ouais.
Ouais. Là, j'ai dit, il y a un moment donné, faut que je puisse aussi dire ce que moi, je veux faire. Et vraiment le fait d'être maman, ça m'a, moi, comme je te disais, pendant la grossesse je me sentais pousser des ailes. Je me suis dit c'est moi la maman, il faut que je me préserve, c'est important de recharger ses batteries, autant pour ma fille que pour moi. donc la soutenance arrive.
Ouais, c'est ce que t'allais dire, on va passer à la soutenance. Cette soutenance où dans ton mail, quand tu m'as contactée pour participer à Prenons un café, tu me disais que tu avais passé cette soutenance avec ta fille. Comment ça se passe, une soutenance avec son enfant ? Parce que moi, j'ai bien conscience de la mienne et je vois pas comment j'aurais pu mettre mon enfant à cet endroit-là.
Eh ben, écoute, je ne voulais pas du tout laisser Chloé à ce moment-là, parce que tu vois, c'était le 2 juillet, donc Chloé, elle avait un mois et demi, et moi, c'était impossible que je me sépare de Chloé, même 45 minutes, hein, il fallait qu'elle soit près de moi, surtout qu'elle réclamait quand même beaucoup à tété, donc je voulais qu'elle soit près de moi, et donc j'ai demandé à Tristan, à ma mère et à ma belle-mère de prendre une demi-journée pour m'accompagner, au cas où. Parce que je m'étais dit je peux pas y aller toute seule avec avec la petite, parce que si voilà, si elle pleure par exemple longtemps et que j'arrive pas à la mettre au sein, là ça va être un petit peu compliqué pour la soutenance. Et donc j'avais envoyé un mail à mes profs en leur disant puis j'ai invité telle personne, ils sont généralement en master 2, tu peux inviter les personnes que tu veux, hein, tu pourrais même avoir une assemblée, apparemment c'est possible. Donc moi j'avais quand même demandé l'accord et j'avais dit je viendrai avec ma fille. Ça par contre j'avais pas demandé, j'avais dit je viendrai avec ma fille, point. Donc on est arrivé avec avec Chloé, donc c'était super parce que j'avais tellement l'habitude d'aller à la fac enceinte que là j'arrive avec mon bébé, donc c'était très drôle parce qu'il y avait encore quelques étudiants à la fac qui me regardaient, et donc la soutenance s'est très bien passée, j'ai pu la voir près de moi pendant une grande partie de ma présentation, et puis au bout d'un moment elle a commencé à pleurer un petit peu, donc Tristan est allé se balader avec elle dans les couloirs, et ça s'est vraiment très très bien passé. Voilà, c'était un moment très riche en émotions parce que voilà, il fallait, c'était la fin de mon master, et puis je pouvais vivre ça avec avec ma fille dans les bras, tout s'était déroulé à peu près comme je l'avais imaginé, donc c'était parfait. Et après ces soutenances, il me manquait plus que mon stage à faire, du coup où ben là j'allais découvrir le tirage au travail, enfin au travail en stage, voilà c'était comme une reprise de travail classique.
Oui,
finalement.
C'est ça. Ça reste quelque chose d'assez classique dans le monde de la maternité slash travail, en tout cas dans une société française, telle qu'on la connaît. Ce n'est pas le cas ailleurs, mais en tout cas en France, c'est assez classique. Quelle note tu as eu à ce mémoire, tiens?
J'ai eu 17.
Eh ben, bravo, félicitations d'avoir pu... Puis faire les deux en même temps, parce que ça devait quand même pas être simple. Au moment où tu soutenais ton mémoire, toi, ton cerveau, il était dans quelle phase? Est-ce que tu étais full étudiante, ou alors tu étais un peu concentrée quand même sur ce qui se passait avec ta fille? Comment tu as géré ça, cette ambivalence?
J'ai fait les deux, en fait. J'étais à la fois concentrée sur Chloé, en me disant que si elle avait besoin de téter, j'hésiterais pas à la mettre au sein, devant le jury, ça me dérangeait pas du tout. Mais en même temps, comme il y avait Tristan, ma mère et ma belle-mère, je me sentais très entourée, et je savais que voilà, qu'ils pouvaient aller se balader avec elle. Et bon, je peux pas non plus dire que j'étais à 100% étudiante, parce que j'étais quand même encore en postpartum. C'était une période toute particulière pour moi, où je découvrais la maternité. Et en fait, il y a quelque chose auquel je viens de repenser quand tu m'as parlé des difficultés que j'ai ressenties durant ma grossesse / étude. Ça a été de faire mon mémoire sur l'impact traumatique, l'impact des accouchements traumatiques sur la santé des sages-femmes. Et je dois dire que c'est un thème de recherche qui n'est pas très positif quand tu es enceinte. Parce que quand j'interrogeais des sages-femmes ou qu'elles répondaient à mon questionnaire, elles parlaient d'énormément de pathologies très graves, de morts fœtales, etc. Et donc ça a été très dur. J'y repense seulement maintenant, mais ça a été compliqué. Et c'est vrai que c'était... pendant mon mémoire, quand je parlais justement des pourcentages de sages-femmes traumatisées par les naissances compliquées, je me disais, comment j'ai fait pour travailler sur ce thème-là, enceinte? Parce que c'est un thème qui est quand même très, très, très sombre, très noir. Et j'étais dedans, donc je me suis pas...
Tu réussissais à faire la part des choses?
J'ai fait pour. Ouais. À la base, j'avais posé une question sur la pathologie. Quand il y avait une mort fœtale, je demandais aux sages-femmes ce qui s'était passé, ou alors quand il y avait une mort pendant l'accouchement, enfin une naissance d'enfant mort-né, ou suite à une pathologie liée à la naissance, je demandais aux sages-femmes d'expliquer un petit peu. Et ça, cette colonne-là, je l'ai supprimée après. J'ai demandé à mon directeur de recherche si c'était possible que j'aille pas plus loin dans ces statistiques-là, parce que c'était trop dur. C'était trop dur de lire tout ça, parce qu'il y avait énormément de de témoignages très, très sombres. Et bon, j'avais pas du tout envie de me dire que peut-être ça pouvait m'arriver. Donc, j'ai essayé de me concentrer sur ce qui était plutôt de l'ordre des chiffres, etc. Voilà, j'ai beaucoup rationalisé à ce moment-là. Mmh. Je m'en rends compte maintenant. Et voilà. Et puis, après cette soutenance et après mon stage, j'ai rendu un écrit donc, qui s'appelle une note clinique. Et ensuite, j'ai repassé un nouvel oral pour avoir mon diplôme de psychologue. Et donc, ce qui me tenait vraiment à cœur dans cet écrit-là, c'est de parler de mon allaitement sur mon lieu de stage et de mon postpartum. C'est très étonnant, ouais, d'écrire ça dans une note clinique, parce que bon, normalement, on parle que de son vécu de stagiaire psychologue. Et moi, ça m'a tenu à cœur d'expliquer comment se déroulaient mes journées par rapport au tirage, voilà, de ce que ça implique d'être étudiante enceinte. Et je m'étais dit, ça passera ou ça cassera avec le jury. Peut-être qu'ils vont me dire, mais madame, vous mélangez tout, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est ce que je m'étais imaginé. Et quand j'ai passé cet oral-là, il y a un des jurés qui m'a dit, mais c'est super que vous nous ayez raconté tout ça, parce qu'on a vraiment, été immergés dans ce que vous avez vécu par rapport à votre grossesse et au fait d'être étudiante. Et j'ai été plutôt... ils étaient très étonnés, dans le bon sens, ouais, du terme, de pouvoir lire tout ça. Et ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir inscrire Chloé et tout ce que j'avais vécu dans ces dernières pages-là, avant que je sois psychologue et que je commence enfin à travailler.
Ouais. Aujourd'hui, tu attends ton deuxième bébé. Quelle est la différence majeure entre ces deux grossesses, selon toi ?
La différence, ce qui est plus simple, c'est que je travaille et que j'ai pas de rendu. Enfin, je rends des écrits, évidemment, parce que je suis sur... par exemple, j'ai trois services, dont un où je fais du diagnostic d'autisme. Donc, je dois rendre des comptes rendus, mais c'est pas des mémoires de 80 pages. Voilà, j'ai des écrits à faire qui sont sur le temps de travail. Voilà, donc je trouve que quand je rentre chez moi, quand je sors du travail, je ferme la porte. Je dis pas que j'y pense plus, mais parce que je pense toujours à mes petits patients, mais quand même, c'est différent. Je sais que je suis rentrée à la maison, je suis contente d'être en week-end, je suis contente que ce soit le soir et que je puisse retrouver ma fille, voilà. Donc ça c'est plutôt positif, tu vois, de pas me dire dans tant de temps j'ai un concours à passer, dans tant de temps j'ai ça à faire, dans tant de temps j'ai une soutenance. Voilà, ça c'est positif. Ce qui change également, c'est que je sais ce que c'est que de donner naissance. Et là, je me prépare énormément pour cette deuxième naissance. Je ne sais pas si elle se passera comme je le désire. Ça, c'est toujours pareil. On ne sait pas. Mais je sais ce que je veux. Donc, je me prépare. Je fais du yoga prénatal. Je fais de l'hypnose. Il y a une sage-femme qui va me commencer la semaine prochaine à me donner des cours de physiologie de l'accouchement pour que je puisse être au top et vraiment comprendre tout ce qui se passe. Voilà, donc je fais tout, enfin j'essaye en tout cas de tout faire pour être vraiment prête le jour J à vivre une naissance naturelle, en tout cas au plus proche de ce qui peut être physiologique, même si ce sera à la maternité, parce que je souhaitais un accouchement à domicile, mais on n'a pas de sage-femme à domicile dans ma région. D'accord. Donc ce sera en maternité, mais je sais que le CHU est assez respectueux des projets de naissance, donc je sais que si je dis voilà, j'ai pas des envies incroyables, hein, juste lumière tamisée, un peu moins de monde lors de la naissance, etc. Voilà, j'avais pas des demandes, je demande pas à ce qu'on m'installe un château pour accoucher. Mais voilà, le fait de savoir ce que ça a été pour Chloé, c'est vrai que c'est très aidant, je trouve. Après, j'ai toutes les nouvelles questions de j'ai une fratrie. Je vais avoir une fratrie, je vais avoir deux filles plutôt rapprochées, 2 ans et 4-5 mois d'écart. Donc voilà, c'est plutôt des questionnements sur la vie de famille avec ouais, deux enfants. Voilà, ça c'est des questionnements qui arrivent. Après, dans le côté un peu négatif, je travaille lors de consultations, je suis avec des enfants en individuel. Par contre, j'ai un temps dans un hôpital de jour pour enfants. C'est des enfants avec soit un trouble du spectre autistique, soit des troubles du comportement. Et là, par contre, c'est un peu plus compliqué. Par exemple, quand j'ai annoncé ma grossesse aux enfants, il y a un petit qui m'a dit « mais on va te couper le ventre. » un autre qui me dit les femmes enceintes elles meurent. Enfin, tu vois, c'est des enfants qui vivent des voilà, qui vivent des choses très compliquées, qui ont voilà, un handicap psychique.
T'as les difficultés du terrain en fait que t'avais pas lorsque tu étais étudiante.
Exactement.
Peut-être.
C'est ça.
Ouais.
Exactement. Et ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué, voilà, de faire face parfois à des problématiques difficiles. Par exemple, quand je fais des annonces de diagnostic d'autisme aux parents, ce qu'on appelle les retours, c'est très dur parce que pour la majorité des parents, c'est un monde qui s'effondre. Et c'est voilà, parfois ça, c'est difficile de les accompagner quand moi-même je me mets à leur place. Voilà, il y a une empathie bon qui a toujours été présente hein, par rapport aux parents que je suis, mais d'autant plus avec la grossesse où je me dis imagine si c'était toi à leur place. Et là c'est plus dur, je trouve. Ouais. Donc vraiment
la réalité. C'est difficile de faire la part des choses finalement. Ouais.
Exactement. Je trouve qu'on est plus impacté. En tout cas, moi, c'est mon impression. Hein. On est plus impacté. Il y a quand même voilà, énormément de recherches scientifiques et psychanalytiques sur le sujet hein, qui montrent que pendant la grossesse, il y a une porte ouverte hein, d'un point de vue psychique ouais. Pour travailler certaines choses et ressentir les choses différemment. Donc c'est vrai que voilà, quand même un peu plus impacté par le terrain, alors qu'avant j'étais sur mes recherches, c'était dans un ordinateur, voilà.
Il y avait un peu cette bulle finalement, cette bulle des études.
Exactement.
Tout comme en hors grossesse, même quand tu es encore étudiant, que tu es en stage, tu es toujours entouré et tu as plus le droit, t'es plus protégé par des supérieurs et par des professeurs qui te protègent de tout ça parce que t'es en apprentissage finalement. Alors que quand t'es sur le terrain, t'as plus cette bulle-là, c'est toi le premier rang, quoi.
Oui, exactement. Et d'où l'importance d'avoir une équipe qui soit très bienveillante, ce que j'ai la chance d'avoir sur mes trois services, puisque quand j'ai annoncé ma grossesse, j'ai toutes mes collègues, je dis toutes parce qu'on est quasiment que des femmes, toutes mes collègues m'ont dit, écoute, s'il y a des choses qui sont compliquées à entendre en réunion, s'il y a des sujets, s'il y a des, voilà, des situations, parce que faut pas se mentir, hein, en pédopsychiatrie, c'est souvent des situations très difficiles auxquelles on a affaire, et voilà, elles m'ont dit, tu hésites pas. Tu n'hésites pas à prendre une pause. Si tu as besoin de t'arrêter, tu t'arrêtes. Enfin, voilà, c'est vrai que j'ai des collègues qui sont tout le temps en train de me dire « Est-ce que tu vas bien ? Tiens, on t'a ramené du chocolat. » Enfin, voilà, vraiment une équipe super, super bienveillante. Et comme je suis très jeune, je n'ai que 25 ans, et que la majorité de mes collègues ont, je dirais, entre 40 et 45 ans, elles ont toutes des enfants qui sont ados. Voilà, j'ai très peu de collègues qui ont des tout-petits. Et donc, c'est vrai qu'elles sont... Elles sont très voilà, elles se souviennent avec grand plaisir de ce qu'elles ont vécu et donc elles sont toujours très voilà très bienveillantes et je retrouve un peu ce côté cocoon voilà qu'on a quand on est enceinte, ce que tout le monde se voilà te dit ah est-ce que tu vas bien, comment tu te sens, donc c'est super voilà
côté c'est chouette. Merci beaucoup Adeline pour ce témoignage, pour tout ça, c'était vraiment un très chouette moment. Moi je te souhaite une belle fin de grossesse, une belle rencontre avec ce nouveau bébé et l'accouchement dont tu rêves en fait.
Eh ben merci à toi Élise, ça m'a fait énormément plaisir, ça fait un grand moment que j'écoute ton podcast et que j'avais hâte de venir discuter avec toi en prenant le café.
Bah merci beaucoup Adeline et puis à bientôt.
À très bientôt.
J'espère que ce nouvel épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts ou iTunes pour m'aider à mettre en avant le podcast. Tu peux aussi soutenir Prenons un café sur Tipeee. J'ai très envie d'emmener le podcast encore plus loin. Mais pour ça, j'ai besoin de toi. Alors si le cœur t'en dit, tu peux entrer dans l'aventure avec quelques euros. En échange, de nombreuses contreparties trop sympas t'attendent. Un merci tout spécial à Pauline qui soutient Prenons un café ce mois-ci. Pour faire comme elle, rendez-vous sur la page Tipeee de Prenons un café. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.